Bonjour à tous. Je reprends aujourd'hui un message qui était prévu le 27 janvier par quelqu'un qui est cher aux yeux de Dieu et qui est très cher à mes yeux aussi, moi. Je vous ai fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé, on me demande souvent d'encourager, c'est vrai, on a du mal des fois à exprimer ses sentiments, et je me réjouis aujourd'hui de voir Louisette. Voilà, donc je le dis, puisque j'en profite parce que je suis devant vous à la chaire. Je voudrais partager avec vous ce matin ce qui m'interpelle dans le livre de Daniel. Je suis vraiment émerveillé par les événements décrits dans le livre de Daniel et par l'attitude de Daniel. Le livre de Daniel couvre une période de 70 ans, de 605 à 536 avant Jésus-Christ. Lors de la première déportation, c'était dans les temps anciens, n'est-ce pas, Nathanaël ? Daniel est capturé et emmené en exil, comme de nombreux juifs de l'élite. Le livre de Daniel, qui se trouve dans l'Ancien Testament, tu l'as peut-être déjà lu, Nathanaël, d'ailleurs, à l'école du dimanche. Plus c'est décomposé en deux parties. Une première partie historique du chapitre 1 à 6 et une deuxième prophétique du chapitre 7 au verset 12. Je voudrais lire avec vous ce matin au chapitre 1, les versets 1 à 21. Chapitre 1, livre de Daniel, les versets 1 à 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Achesphas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azakia. Daniel, verset 7, chapitre 1, verset 7, Nathanaël, c'est bien. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8, qui est un verset important, verset 8 de Daniel 1, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9, qui est un verset aussi important, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant a emporté les mets et le vin donc, qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qu'ils réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Sur le chemin de l'exil. Sur le chemin de l'exil, les rêves des plus jeunes juifs s'écroulent. Ils sont emprisonnés. Mais voilà qu'une nouvelle porte s'ouvre pour certains d'entre eux. Daniel et ses 3 amis sont choisis pour entrer au service de Nabucodonosor. D'ailleurs, l'attribution de leur nouveau nom marque l'autorité que veut avoir le roi sur eux. Plutôt que de s'enfermer dans l'amertume à cause de leur malheur, de leur souffrance, ils voient dans cette proposition une nouvelle occasion de rebondir. Ils sont en exil, enfermés, mais leur vie n'est pas finie. Pour entrer dans cette nouvelle vie, nos 4 jeunes hommes manifestent 2 attitudes importantes. En premier lieu, et je l'ai cité tout à l'heure et je l'ai appuyé, ils prennent une ferme résolution, verset 8, de ne pas se rendre impurs et donc de rester fidèles à leur Dieu. Décision importante alors qu'ils sont plongés au cœur du monde païen. Ensuite, ils font preuve de souplesse dans leurs relations humaines. Leur fidélité ne les pousse pas au mépris des autres. Ils savent rester sensibles à la peur légitime du chef des eunuques, chargé de les préparer au service du roi. D'un côté, la fermeté à Dieu, la fermeté et la fidélité à Dieu. Dans l'autre, la souplesse dans la relation au prochain. Cela correspond bien à ma personnalité, même si parfois il y a quelques virages difficiles à négocier, et ce à quoi je crois vouloir aspirer. Mais quelle est la facette de cette personnalité la plus difficile à acquérir? Est-ce que c'est la souplesse dans la relation au prochain? Ou est-ce que c'est la fermeté dans la fidélité à Dieu? Je pense qu'au milieu de ce monde si tolérant, c'est la fermeté. La volonté d'être fidèle à Dieu qui est l'attitude la plus difficile à développer. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du vin du roi et par le vin dont le roi buvait. Dès le début de sa formation, Daniel prend une décision courageuse. Il refuse de se rendre impur en consommant les mets et le vin de la table royale, servi aux futurs hauts fonctionnaires de l'empire babylonien. Daniel résolut de ne pas se souiller. Plusieurs raisons plus ou moins importantes peuvent être avancées pour justifier une telle résolution. La première raison qu'on peut trouver, c'est que Daniel ne voulait pas transgresser les prescriptions alimentaires contenues dans la loi de Moïse. Le juif ne devait manger qu'une viande saignée au préalable. Il était interdit de manger de la viande d'animaux cataloguée impure. On peut le voir dans Lévitique 11. Or, à Babylone, aucun tabou ne frappait par exemple le porc qui était très apprécié. On mangeait aussi du cheval en toute liberté. Un peu comme nous, on mange du bœuf et il y a du cheval aussi. Mais bon, ça... La deuxième raison aussi pour justifier une telle résolution, c'est que cette nourriture et ce vin avaient sans doute été préalablement consacrés aux idoles, selon un rite religieux babylonien. La consécration des aliments pouvait être accompagnée d'une libation de vin en l'honneur d'une divinité. C'est l'argument principal souvent retenu par les commentateurs qui fait que Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Une troisième raison pour justifier une telle résolution aussi, c'est que dans la mentalité orientale, partager un repas, et peut-être qu'aujourd'hui aussi d'ailleurs, il faut peut-être qu'on y réfléchisse, partager un repas équivalait à s'engager en amitié, et le geste marquait une alliance. Celui qui s'engageait de la sorte à être fidèle au roi reconnaissait qu'il lui devait la loyauté. Il semblerait que Daniel ait refusé ce symbole de dépendance parce qu'il voulait être libre de remplir les obligations premières qu'il avait envers le Dieu qu'il servait. La souillure qu'il redoutait n'était pas tant rituelle que morale. La flatterie subtile de dons et de faveurs entraînait des obligations cachées de soutien loyal, quelque douteuse que pût être la politique ultérieure du roi. Dans mon métier, on m'apprend au niveau des achats à ne pas manger avec les fournisseurs, justement pour ne pas être lié par une amitié quelconque. Pour Daniel, son grand Dieu passe avant le roi. Dieu exige un engagement inconditionnel. Daniel ne peut plus donner, dans ce cas, qu'un engagement limité et conditionnel au roi. La quatrième raison qui fait que Daniel a pris cette résolution, c'est peut-être que Daniel était aussi sensible au fait que ses aliments étaient étroitement liés à la corruption profonde qui prévalait à la cour royale où toute morale était piétinée. La table royale et les nouveaux festins favorisaient l'ivrognerie. L'immoralité était étalée au grand jour. Voilà quatre raisons qui peuvent être avancées pour justifier une telle résolution. Il fallait donc choisir. Daniel avait donc plus d'une raison valable aux yeux de Dieu pour prendre une décision aussi grave et risquée dans ses conséquences. Il ne l'a pas fait à la légère. Une chose est absolument certaine, Daniel résolut de ne pas se souiller. Des siècles avant, il illustre cette parole forte de l'apôtre Paul s'adressant aux membres de l'église de Corinthe, confrontés avec le problème de la consommation de viande sacrifiée aux idoles. En 1 Corinthiens 10, verset 21, il dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut choisir. » Et cela nous fait peur. Choisir nous fait peur. Daniel l'a fait courageusement et nous invite à marcher sur ses traces. Ce faisant, il nous met terriblement mal à l'aise, car choisir, surtout quand l'enjeu est de taille, nous donne des sueurs froides. Nous sommes des gens étranges, prêts à combattre pour la liberté et à mourir pour défendre nos droits de choisir. Pourtant, chaque jour, nous faisons en sorte, et moi en premier, d'éviter de choisir et soupirons pour que quelqu'un ou quelque chose nous affranchisse du poids terrible des décisions. On pourrait résumer ainsi notre attitude. Je vous tue si vous me privez de ma faculté de choisir, et je vous hais si vous m'obligez à choisir. Il n'est pas surprenant que les foules affluent vers les chefs autoritaires et persuasifs, car ils leur font économiser l'angoisse des décisions. Connaissez-vous la légende de l'âne de Buridan ? Philosophe et recteur de l'université de Paris en 1327, Jean Buridan est né à Béthune en 1298, je vais y arriver. Il a émis la théorie selon laquelle le choix se porte difficilement sur le bien qui semble le meilleur. Pour illustrer ses propos, on cite la légende de l'âne de Buridan, lequel hésita entre un seau d'eau et une botte de foin. Ne sachant que choisir, l'âne se laissa mourir de faim et de soif. Les hommes détestent être obligés de choisir entre deux alternatives. Ils aiment opter pour les deux à la fois. L'on dit couramment, peu importe ce que l'on croit, du moment que l'on est sincère. L'on prétend qu'il est imprudent d'analyser les problèmes et de définir les enjeux de façon claire. Or, la religion du Nouveau Testament s'avère aux antipodes de cette optique. le christianisme ne nous autorise pas à rester assis entre deux chaises ou à vivre dans le flou. Il nous incite à nous montrer net et précis. La Bible rejette clairement tous ceux qui ont le profil de l'opportuniste. On le voit bien, il faut choisir entre la lumière et les ténèbres. Il faut choisir entre le blanc et le noir. Le gris sera rejeté. Il faut choisir entre le froid et le chaud. Le tiède sera vomi. La prise de position du jeune Daniel nous permet de faire quelques observations sur les caractéristiques essentielles de son caractère et de son témoignage. Daniel est une personne à principe, un homme de conviction. Sa connaissance de la parole de Dieu et sa mise en pratique constituent autant de lignes de force qui donnent au personnage une stature faite de stabilité, d'homogénéité et de cohérence. Chez lui, point de réaction impulsive, point de raisonnement hasardeux du genre « on verra bien », point d'opportunisme, girouette du type « allez, allez dans le sens du vent ». Daniel sait ce qu'il veut et où il va. Mais attention, cela ne fait pas de lui un être insensible, froid. Plus d'un passage nous le révèle bien au contraire. Il est profondément ému et bouleversé. C'est le cas lorsqu'il s'adresse au chef des eunuques et qu'avec beaucoup de sagesse, il lui propose une solution alternative qui consiste à tester temporairement une nourriture à base de légumes et d'eau. Son centre de gravité n'est pas en lui-même, mais en Dieu. Sa prise de position est le reflet de sa devise « En toute chose lui plaire ». La parole de Dieu dirige sa vie. La parole de Dieu coule dans ses artères et règle sa vie tout entière selon ses directions divines. Elle est plantée dans son cœur comme sa suprême autorité en matière de foi et de vie. Il n'y a pas la Bible d'un côté et la conduite de l'autre. Vers la fin de sa vie, lorsque ses collègues de travail chercheront un motif d'accusation en examinant de près son activité professionnelle, ils ne réussiront pas à le prendre à défaut. Nous pouvons lire en Daniel 6, versets 4 à 5. Alors, le chef des satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faux, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Alors, ils s'attaqueront à sa vie de foi. Ils le feront descendre dans la fosse aux lions, après l'avoir accusé de prier son Dieu, piégeant ainsi le roi même. Malgré les souffrances et les épreuves de Daniel, il restera ferme dans sa foi. Daniel avait mis toute sa confiance à Dieu. Dieu est souverain de toutes les nations de l'histoire. Il est le maître absolu. Je crois que Daniel aurait pu faire sienne les paroles, ces diverses paroles d'encouragement que l'on peut trouver dans la Bible. J'en ai cherché quelques-unes que je vais vous livrer comme ça, en Nombre 24, verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Psaume 31, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ésaïe 25, verset 1. « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Et encore, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. « C'est pourquoi, aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. » est l'œuvre de votre foi. Daniel aimait Dieu. Mais aussi, Dieu aimait Daniel et l'avait choisi. Le Dieu créateur est aussi le maître de l'histoire. Dieu n'annonce pas seulement ses plans, mais il choisit avec soin les hommes et les femmes, jeunes ou âgés, qui joueront un rôle dans l'accomplissement de son projet. Dieu avait choisi Daniel afin de parler au roi Darius en faveur de son peuple. Nous pourrons le voir justement en Daniel 6, versets 25 à 28. Je cite. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le sceptre de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Ce Daniel qui est arrivé comme prisonnier, qui a été persécuté, qui a été, je dirais, enfermé, ce Daniel a parlé pour son peuple et Dieu l'a délivré. Daniel avait fait le choix de suivre Dieu et Dieu lui fit voir beaucoup de bénédictions. Après les diverses épreuves que Daniel a traversées avec foi, dans la confiance en son Dieu, Dieu utilisa Daniel pour annoncer de grandes nouvelles. Ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est Dieu qui envoie son ange pour lui permettre de voir de grandes prophéties. Quelle grande confiance en cet homme lui témoignait ainsi Dieu. Quel encouragement à parler de la part de Dieu. Quel encouragement à agir selon la volonté de Dieu. Quel signe de bénédiction à cet homme qui demeure fidèle à Dieu. Daniel rencontra un ange de Dieu, et pas n'importe quel ange, l'ange nommé Gabriel. Cet ange qui n'apparaît que 4 fois dans la Bible, toujours pour aider les saints, pour les éclairer ou en délivrer un message de bonne nouvelle. Cela est troublant, car ce messager a parlé aux serviteurs de Dieu. Daniel, à travers ses prophéties qui se sont réalisées, comme la reconstruction de Jérusalem, et l'intervention du chef consacré Jésus, qui naîtra à la suite de la venue du prophète Jean-Baptiste, 490 ans après. C'est ce même ange, Gabriel, qui 490 ans après avoir apparu à Daniel, apparaîtra à Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, et qui ensuite apparaîtra à Marie et Joseph pour leur annoncer la naissance du Christ, le Sauveur d'Israël. C'est ainsi que Dieu jette son dévolu sur Daniel, qui a traversé de nombreuses épreuves sans faiblir, sans se détourner de son Dieu. C'est ainsi que Dieu jette son dévolu sur 2 couples sans enfants pour manifester sa puissance. Il fera de Zacharie et Élisabeth, jusque-là effacées et presque inconnues, les parents du précurseur de Jésus, qui auront la charge d'élever et de préparer à son ministère un petit garçon nommé Jean. Il fera de Marie et de Joseph les parents de Jésus, le Sauveur, le chef consacré, annoncé par Daniel 490 ans avant. Quel encouragement pour nous à demeurer fidèles! Je voudrais lire avec vous ces 2 passages qui citent le nom de l'ange Gabriel. Vous n'êtes pas obligé de me croire non plus. Dire des choses. On le trouve en Daniel 9, versets 20 à 23. Je parlais encore et je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Le mot « ange » signifie « messager ». Dans la Bible, un seul ange est désigné par son nom, Gabriel. Ce terme signifie en hébreu le héros de Dieu, ou Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons le retrouver en Luc 1, versets 11 à 28. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il faut choisir. Puissions-nous rester fermes dans notre foi et dans nos prises de position. Puissions-nous être toujours plus saints jusqu'à pouvoir entendre l'Esprit de Dieu nous dire « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Que le Seigneur vous renouvelle dans votre foi et qu'il puisse vous encourager à demeurer ferme par sa grâce toute puissante. Amen.